Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Astrid. Alors aujourd'hui, une émission consacrée à un monument, on peut dire, de la littérature yiddish, un des plus grands poètes de cette littérature, Avrom Sutzkever, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois et auquel tu as même consacré, enfin en particulier, en partie un spectacle. Hein, voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui cette émission ? Parce que vient de paraître une somme, on peut dire vraiment un grand ensemble de traductions par Rachel Hertel, qui s'appelle Heures rapiécées, poèmes en vers et en prose, donc traduction de Rachel Hertel aux éditions de L'Éclat. Alors, Rachel Hertel et Sutzkever ont une histoire en commun, c'est-à-dire que Rachel Hertel est née en 1939, elle a passé la guerre dans les provinces éloignées de l'Union soviétique, donc ce qui lui a permis de survivre avec sa mère, hein, puisqu'elle était toute petite. Et donc, elle est venue à Paris dans les années après la guerre, 46-47, et c'est aussi les années que Sutzkever a passé à Paris, c'est-à-dire que il est retourné très brièvement en Pologne après la guerre, mais il n'y est pas resté et il est venu à Paris avant d'émigrer en Israël. Donc c'est là que Rachel Hertel l'a rencontré, donc elle avait même pas 10 ans, hein. Et donc il habitait dans une rue Guy Patin, c'est un peu une rue mythique pour les écrivains yiddishophones habitant à Paris. Donc c'est une rue dans le 10e arrondissement dans laquelle je suis passée, puisque c'est tout près du boulevard Magenta où habite ma fille. Et donc il y a même une plaque sur le bâtiment où ils habitaient. Oui, c'est un ensemble de d'appartements assez modestes, et donc où habitaient les écrivains yiddishophones, surtout venant effectivement de Pologne, de Russie après-guerre, et il y avait une vie intellectuelle très intense. Et c'est là que Rachel Hertel fait connaissance avec Avrom Sutzkever, qui lui est de passage, et ils vont, comme je l'ai appris dans ce livre, ils vont continuer à entretenir une correspondance. Ils vont aussi se voir. Avrom Sutzkever vient souvent à Paris, ce que je ne savais pas, et ils vont avoir une correspondance, et elle va être la première traductrice d'Avrom Sutzkever, puisqu'elle a traduit très tôt ses textes dans un petit livre qui s'appelle « Où gîtent les étoiles ?», absolument introuvable. Il y en a un exemplaire à la Maison de la Culture Yiddish, mais moi j'ai essayé de l'acheter, il n'est plus disponible nulle part. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très précurseur. Et ensuite, ils ont correspondu pendant toute leur vie, jusqu'au décès d'Avrom Sutzkever en 2010. Et donc, elle dit qu'il a aussi, écouté la traduction de « Où gîtent les étoiles », enfin de ses poèmes, et il lui a fait des remarques. Apparemment, il savait assez le français pour juger, en tout cas, de la musicalité de ses textes. Alors, on peut dire que dans le monde yiddish, il y a un petit peu deux écoles. Il y a l'école des gens qui disent que pour apprécier la littérature yiddish, il faut apprendre le yiddish. Et je pense que c'est tout à fait valable pour Avrom Sutzkever et pour la plupart des poètes, dont la poésie est souvent presque intraduisible. Bon. Et puis, alors, il y a ceux qui pensent qu'il faut traduire. Et donc, évidemment, Rachel Hertel fait partie de ce groupe. Elle a énormément traduit. Elle a également écrit sur la littérature yiddish. Et donc, elle présente ses poèmes en français. Ce n'est pas une édition bilingue. On peut peut-être le regretter. Mais enfin, bon, ça serait d'ailleurs de toute façon beaucoup trop gros. Voilà, donc c'est un petit peu son choix, elle. Elle a aussi une translittération personnelle. Alors pendant longtemps, elle avait vraiment une translittération à la française, si je puis dire. Maintenant, j'ai vu qu'elle avait un petit peu adopté un style un peu plus général, mais il y a... Voilà, c'est ça, OU pour OU, enfin toutes sortes de... Oui, pour que ce soit lisible pour un francophone, ouais. Hein, mais il y a quand même la translittération internationale de base anglaise, mais en fait, qui maintenant est adoptée par tout le monde, et elle l'a quand même adoptée. Alors, donc, ce recueil présente des œuvres de Soetskever de toute sa vie. Je vais encore dire une chose, c'est qu'elle a choisi donc d'écrire tout en minuscules. Tout est écrit absolument en minuscules, aussi bien les titres que les noms propres, mmh. En suivant par là le yiddish, puisque en yiddish, ce qui s'écrit, comme vous le savez, en lettres hébraïques, il n'y a évidemment pas de majuscules dans l'hébreu, donc il n'y a pas de majuscules. Quand on translittère le yiddish, effectivement, même quand on le translittère en lettres latines, on ne met pas de majuscules. Voilà, c'est ce qu'elle a repris dans ses traductions, voilà. Alors, je n'ai pas comparé les poèmes en yiddish et en français. Ce serait peut-être un travail à faire, voilà, pour montrer un peu les choix de traduction. Mais je n'ai pas... Bon, je connais pas mal de poèmes de Soetskever. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur, peut-on dire, de le voir lui-même, puisqu'il est venu en 1988. Il y a eu à Strasbourg un colloque consacré au yiddish à la BNU, et Avraham Soetskever est venu, il a récité des poèmes en yiddish, il a récité en particulier Gefroren Yiden, juif gelé. À l'époque, je n'ai absolument rien compris. Et voilà, donc je peux dire que j'ai vu Avraham Soetskever. C'est d'ailleurs en 1988 que Heather Valencia, donc une yiddishisante écossaise, a également fait connaissance d'Avraham Soetskever. Alors, je ne sais plus si elle était venue à Strasbourg ou si elle l'a connue par d'autres biais, mais en tout cas, elle est devenue une grande spécialiste de Soetskever. Elle l'a rencontrée à plusieurs reprises et elle a écrit un livre en anglais avec également des traductions. Mais là, je crois que c'est bilingue. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que je ne maîtrise pas assez l'anglais pour apprécier ni les commentaires, ni la traduction. Donc, voilà. Donc
c'est organisé chronologiquement dans ce recueil ?
Oui, le recueil est chronologique. Oui. Donc, Avraham Soetskever est né en 1913. Il a passé sa jeunesse en Sibérie parce qu'il y a eu la guerre de 14. Donc, on a refoulé les Juifs vers la Sibérie, dans des conditions évidemment très très dures. D'ailleurs, son père est décédé assez vite de maladie, donc quand il avait 6 ou 7 ans. Mais pour lui, c'est vraiment le moment où s'éveille sa vocation poétique et où il commence à écrire très très tôt. Ensuite, la famille vient à Vilna et c'est là qu'il a passé toute sa jeunesse, hein, on peut dire. Donc il fait connaissance des écrivains polonais. Il connaît très bien les écrivains polonais, en particulier Cyprian Orwicz. D'ailleurs, à l'époque, Vilna était polonaise. Hein, ça faisait partie de la nouvelle Pologne créée en 1918, recréée en 1918. Donc, il a vraiment une culture polonaise très importante. Il commence à écrire et en particulier, il écrit un recueil sur la Sibérie qui s'appelle Sibir. Extrêmement moderne, extrêmement beau. Et ensuite se déclenche la guerre, donc là il est enfermé dans le ghetto de Vilna, il écrit, il continue à écrire, et il survit, hein. Donc miraculeusement on peut dire, hein, parce qu'après la liquidation du ghetto, il se réfugie dans les forêts avec les résistants, qu'on appelle en yiddish les partisans, et donc... Ses poèmes parviennent à Moscou, ils sont lus par Ilya Ehrenbourg et Staline envoie un avion chercher Soetskever et sa femme pour les amener à Moscou. Ensuite, Soetskever va témoigner en russe au procès de Nuremberg, puisqu'on ne l'a pas laissé témoigner en yiddish. Et ensuite, il passe par la Pologne, très brièvement. Ensuite, il passe à Paris, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, il passe en Israël, où il va où il va passer le reste de sa vie, continuant à écrire sur tous les sujets possibles et imaginables.
Toujours en yiddish ?
Toujours en yiddish, oui, c'est vraiment un des défenseurs de la langue yiddish. Mmh. Et donc, qu'il défend également en créant une revue, The Golden Gate, la chaîne d'or, donc sur la transmission. C'est un rédacteur extrêmement sévère, il regarde les œuvres, il vérifie si c'est de bon niveau. C'est pas facile d'être édité dans cette revue. Par exemple, Bachev Zinger, quand il envoie à la Golden Gate, il réécrit ses œuvres, il essaie qu'elles soient vraiment bien. Et je pense que c'est effectivement dans la Golden Gate paraissent ses meilleures nouvelles. Et il édite toutes sortes d'écrivains, mais enfin, vraiment, il veut garder un niveau très élevé. Voilà, lui-même, comme j'ai dit, continue à écrire. Et donc, il est décédé en 2010. C'est Rachel Hertel en parle dans son introduction. Voilà, donc on va peut-être écouter une première chanson qui est peut-être une chanson écrite pendant la période du ghetto.
Oui,
on ne sait pas, oui,
oui. C'est... Unter deine weiße Stern, sous tes étoiles blanches. On va la faire entendre par une chanteuse américaine que je viens de découvrir, Yelena Schmulenson. Alors elle fait, souvent les Américains font ça, c'est pas la première fois que je l'entends, Adrienne Cooper fait ça aussi, elle traduit intégralement avant de chanter. Et c'est ce qui se passe sur cette plage que j'ai récupérée sur YouTube, mais on va pas écouter sa traduction américaine, on va passer directement au yiddish.
Oui, donc, c'est un texte que n'a pas traduit Rachel Hertel, donc c'est vraiment, disons, un choix d'œuvre, hein, parce que l'œuvre d'Avrom Soutkever est absolument gigantesque, donc elle a fait un choix, et j'ai regardé, cette poésie n'est pas traduite par Soutkever, par Rachel Hertel. Excusez-moi.
Deine weiße Stern streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wärter seinen Tränen werden ruhen in dein Hand. Sei es dunkel, sei er finkel, in mein Keller dicken Blick. Schenken dir zurück, ohne Hob gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Ohne will dich Gott getreuer dir vertrauen, mein Vermeck, weil es mord in mir auf. Bist du wo? Läufe Hecher über Dächer und ich such, wo bist du wo? Nehmen Joden mich mir schon in Treppen, häufen mit Gewäu, häng ich an ihr Platz des Thron.
Donc la très belle chanson sous tes étoiles blanches. Hein, donc, Évidemment, Soutkever n'a pas composé de chansons. Il écrivait uniquement. Donc, les chansons, elles ont été écrites par des compositeurs. Il n'a pas été beaucoup mis en musique, non. D'ailleurs. Non. Bien que, certainement, ça soit tout à fait possible. Voilà, donc je vais un petit peu vous lire juste un peu l'introduction de Rachel Hertel, excusez-moi.
Est-ce que c'est cette rencontre qu'elle a faite très jeune avec lui qui lui a donné le goût de la langue yiddish et de ses études littéraires et de la traduction finalement?
Alors, Rachel Hertel est d'une famille tout à fait yiddishisante. D'ailleurs, l'histoire de Rachel Hertel est très intéressante, c'est-à-dire qu'elle arrive donc avec sa mère en France. Sa mère a perdu son mari, donc le père de Rachel Hertel est décédé. Il est d'ailleurs décédé assez tard, à la fin de la guerre, lors du bombardement de la ville de Łódź, Łódź en polonais. Donc je ne sais pas comment il a réussi à traverser la guerre et à être encore vivant à Łódź à la fin de la guerre. Mais enfin, apparemment, il était vivant, mais il a été tué lors du bombardement. Donc Rachel et sa mère viennent à Paris. Et là, elle rencontre Moïse Waldman, lui-même un écrivain yiddish, qui a un fils. Et donc, ils vont vivre ensemble et ils vont avoir une fille ensemble qui s'appelle Myriam, qui est née plus tard, en 49. Voilà, donc Rachel Hertel baigne vraiment dans un milieu yiddishisant et il faut dire que sa mère est devenue ensuite une écrivaine yiddish. Mmh. Elle a écrit des nouvelles et que Rachel Hertel a traduite. Nous en avons lu à Paris, là, lors d'un séminaire. Voilà. Donc, je pense que vraiment, elle a baigné dans ce monde, et aussi, elle se sentait peut-être entre deux mondes, c'est-à-dire qu'elle savait évidemment très vite et très bien le français, et donc elle a dit qu'elle servait d'interprète à Avrom Soutkever quand il était à Paris, et c'est peut-être là qu'est née effectivement sa vocation, en particulier de traductrice. Oui. Voilà, et donc ensuite elle était professeure, mais je ne sais plus de quelle langue, est-ce qu'elle était professeure de français ou d'anglais, et puis bon, ben, elle a toujours travaillé beaucoup, beaucoup dans le yiddish. Donc, ce qu'elle dit d'Avrom Soutkever, « Avrom Soutkever, homme phénix, a traversé tous les bûchers du XXe siècle. » Donc là, vous voyez vraiment bien le style de Rachel Hertel, qui résume en une phrase cette vie très longue. Et donc, et elle parle aussi de son œuvre. Et donc, elle parle de ses actions de résistance dans le ghetto. Donc, les Allemands, les nazis voulaient rassembler un certain nombre de textes pour faire ce musée. Ils devaient faire un musée du judaïsme disparu. Et donc, Avrom Soutkever, avec d'autres, ont fait tout un travail pour cacher des documents. C'est-à-dire, les nazis leur ont dit de trier les documents, puisqu'évidemment, ils n'étaient pas capables de trier des documents en hébreu et en yiddish. Donc, ils ont demandé à ce qu'on a appelé la brigade de papier de trier les documents, mais en les triant, Avrom Soutkever et ses amis les ont cachés. Et comme il a survécu, il a pu les retrouver après la guerre, des textes vraiment d'une valeur inestimable. Il a aussi organisé des soirées poétiques, des rencontres, des expositions de peinture. Bon, et comme dit Rachel Hertel, ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais comment a-t-il réussi à écrire pendant toute cette période? Et c'est un peu ça la question. Et donc, elle dit que c'est sa force, quoi. Et donc, avec une foi, hein, on peut vraiment dire une foi quasiment religieuse, mais non pas en Dieu, mais en l'écriture. Hein. Et donc elle cite ce passage. « Quand le soleil même, semble-t-il, s'est changé en cendres, j'ai cru d'une foi absolue, voilà ce qu'on appelle « emuna shleime » en hébreu et en yiddish. « Tant que le champ ne me quittera pas, le plomb ne m'anéantira pas, tant que dans le cercle de la mort je vivrai la poésie, la douleur trouvera son sens et sa rédemption. » Voilà, donc c'est une foi qui s'est révélée là active, hein, et qui lui a permis de survivre. Mmh. Et il a aussi, ce qui est vraiment, bon, c'est un côté un peu amusant, c'est-à-dire que pendant toute la guerre, pendant tout temps qu'il a écrit, son souci c'était de garder ses écrits, que ses écrits ne se perdent pas. Et dès que la guerre était finie, c'était le souci de les faire publier et que ça soit édité, voilà. Donc il a vraiment ce souci aussi de transmission et d'édition et de que les gens le connaissent. Il n'a pas écrit pour lui-même, hein, il voulait vraiment que les gens sachent ce qu'il avait écrit.
Est-ce qu'il avait aussi le souci d'être traduit ?
Alors ça, je ne crois pas. C'est une bonne, excellente question, mais je ne crois pas. Alors, bon, comme elle dit... Ah oui, c'est intéressant, mais je vais voir si elle dit quelque chose là-dessus. Elle dit qu'il était intéressé par sa traduction à elle, mais je ne sais pas. Tiens, il faudrait une fois que je demande à F.R. Valencia aussi s'il a participé à la traduction en anglais, puisqu'elle l'a évidemment traduit en anglais. Mmh. Est-ce qu'il a participé ? Oui, je ne sais pas. C'est... Bon, pour lui, c'était la défense du yiddish. J'avais quand même le sentiment que ça n'allait pas durer éternellement. D'ailleurs, il a arrêté sa revue. Il n'a pas cherché un successeur. Donc, la revue Die Goldene Kate s'est arrêtée quelques années avant sa mort. Donc, voilà. Donc, peut-être avec cette idée d'être le dernier d'une génération et le dernier d'une langue, hein, surtout. Hein, comme dans le livre de Rachel Hertel, dans la langue de personne. Voilà, alors je vais lire quand même deux, trois poèmes. Donc je vais vraiment lire des poèmes de la première époque, donc de la Sibérie. Donc c'est le jeune poète qui écrit donc avant la guerre. Et c'est des œuvres qui ont été éditées, parce que là aussi, il s'est tout de suite occupé de les faire éditer. Voilà, donc évidemment dans la traduction de Rachel Hertel. Dans la hutte, soleil couchant, chemin bleu verglacé, rêve de douces couleurs assoupies dans l'âme, la lumière d'une hutte brille à ta rencontre, ensevelie sous une neige aux lueurs du couchant. Aux vitres des forêts à prodiges aussi des clochettes de magiques traîneaux teintent. Dans le minuscule grenier, des colombes roucoulent et déroucoulent mon visage, sous la glace pailletée percée de cristaux scintillants, l'irtige frissonne, palpite dans l'air irréel. Sous des coupoles de silence, muette, fleurit un monde, un enfant de 7 ans. Dans un clair-obscur sous la neige, la hutte de mon enfance en Sibérie, dans mes prunelles enténébrées, naît le vif argent des fleurs fleuries sans fin. Dans les recoins sombres, éteints, la lune jette son éblouissant souffle envoûtant. Mon père est pâle de la pâleur de la lune. Le silence de la neige enveloppe ses mains. Il découpe le pain noir avec le couteau affûté et miséricordieux, ses traits d'un bleu pâle. Mes pensées neuves tranchées par sa lame. Pieusement, je trempe le pain de mon père dans le sel. Couteau, père, la mèche de la lampe fume. Enfance, enfant, une ombre décroche le violon du mur. De fin sons de neige coulent sur ma tête. Silence, mon père joue, les notes se gravent dans les airs, dans le gel. Un souffle d'argent bleu, mon haleine, monte sous la lune dans la neige, grain de verre. À travers la vitre en pelisse de glace, un loup se repaît de la chair de la musique. Silence, dans notre pigeonnier, une colombe pique, perd son œuf et sort vers la vie. Voilà donc des poèmes très beaux, on peut dire. C'est vraiment l'ambiance dans la Sibérie. Le père, hein, qui est très présent dans ses premiers poèmes. Voilà, je vais encore lire peut-être le poème justement consacré à son père. À mon père. Père, derrière le traîneau qui portait ton cercueil, j'ai couru hors d'haleine pour m'assurer de te garder à jamais dans ma mémoire. Sur ma poitrine, une colombe d'un blanc de neige, quand un coup de foudre en plein cœur tailla pour toi une autre hutte nouvelle et l'abîme sans fond t'engloutit pour l'éternité où ta lumière brille sous la glace pour toujours. J'aurais voulu te suivre et m'y jeter avec toi. Ma blanche colombe prit alors son envol, couronnée de l'or du soleil couchant. Elle s'est élancée et m'a élevée vers la vie. Voilà, donc déjà des thèmes qu'il va développer après, c'est-à-dire la vie, la mort, et puis aussi la colombe, hein, qui est aussi un thème récurrent dans son œuvre. Voilà, on va peut-être écouter une autre musique.
On va terminer par une autre chanson, oui,
sur un texte de Sauskavar, aussi écrit pendant la guerre. La situation est très, très affreuse. Ça s'appelle « Avogenschir ». Donc, il est dans le ghetto, il voit passer une voiture pleine de chaussures et, comble de malheur, parmi toutes ces chaussures, il reconnaît celle de sa mère. Voilà, donc ça s'est chanté par Hilda Bronstein, accompagné par deux remarquables musiciens, Merlin et Paulina Shepherd, et c'est enregistré en Angleterre.
Die Räder jogen, was bringen sie mit sich? Sie bringen mir Wogen mit Zappeln dicke Schich. Der Wogen wie a Huppe in offentigen Glanz. Die Schich a volle Kuppe wie Menschen in a Tanz. Ach, Hasene Ayontef, sie hat mich wer verblend. Die Schich a soine nonte aufs Neue hob der kennt. Es klappen die Obsassen, wohin, wohin, wohin? Von alte Wilner Gassen, mit treibt uns kein Berlin. Ich darf nicht fragen, wem es, nur es tut in Hals zerriss. Oi, sagt mir Schich, dem Emes, wo sehnen sei die Fies? Die Fies von jene Tufel mit Knäppelech wie Toi. Und da, wo ist das Kufel? Und dort, wo ist die Freu? In Kinderschich in alle, was seh ich nicht kein Kind? Was tut nicht an die Kalle? Die Schichele hat sind durch Kinder, Schich und Schrabes, der kennt mein Mames Schich. Sie pflegt sie bloß auf Schabes, er räuft sie auf sich. Uns klappen die Obsassen, wohin, wohin, wohin? Von alte Wilner Gassen, mit treibt uns kein Berlin.
Voilà, donc avant de terminer, on va faire une annonce sur la présentation des fêtes, donc deuxième séance.
Oui, puisque cette année, je crois que je vais tout faire. Ce n'est pas comme les deux années précédentes où chaque fois, à cause du Covid, je n'ai pas pu faire ces représentations. Là, oui, donc il s'agit de concerts présentations. La prochaine, donc autour de Hanouka, aura lieu le dimanche 28 novembre à 18h. À nous tous, donc cette fameuse salle dans l'église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, rue du 22 novembre, à l'angle avec la Grand Rue. Ne vous trompez pas, c'est là, Saint-Pierre-le-Vieux, rue du 22 novembre. Et par ailleurs, je fais également la même présentation le 4 décembre, le samedi 4 décembre à 18h, au musée alsacien. Voilà, donc venez, c'est une présentation de Hanouka avec un conte de Shalom Aleichem, et des chansons, et des explications, et puis voilà.
Et puis on pourra allumer la première bougie de Hanouka, puisque c'est le premier soir de Hanouka.
Voilà.
Et on vous dit Shalom Aleichem.
À la semaine prochaine.
bim bom bom.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Aïe 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 aïe, c'est le bim bom bim.